Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, excellent réveil à tous. Soyez les bienvenus dans Apolline Matin. Nous sommes le mercredi 14 janvier 2026. Ça y est, c'est officiel. La France ne fait plus de bébés pour la première fois depuis 1945. Il y a eu plus de morts que de naissances sur une année. Et si on faisait gagner des points de retraite aux jeunes parents? C'est la proposition du sociologue Serge Guérin pour tenter de rééquilibrer entre les actifs et les seniors. Il sera avec nous juste après ce journal et puis témoigner auprès de nous si vous avez fait des bébés ou alors au contraire si vous avez renoncé à faire des bébés. Dites-nous pourquoi. Le 32-16 vous est ouvert. Ce matin, on va évidemment continuer à suivre la mobilisation des agriculteurs. Les tracteurs sont en train en ce moment même de quitter le centre de Paris. Ils ont passé une partie de la nuit au pied de l'Assemblée nationale. En revanche, c'est Toulouse qui bloque ce matin. Toulouse qui bloque, vous nous appelez au 32-16 pour en témoigner. Le gouvernement annonce une loi d'urgence. Est-ce que ça suffira à calmer les colères? À 7h40, mon invité, ce sera l'agricultrice et députée européenne Céline Himard. Et puis lui, il rappelle que le traité de libre-échange avec le Mercosur n'était pas que négatif. Il va surtout nous donner des nouvelles de la France. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, viendra nous donner les toutes dernières tendance économique de ce pays. Il est mon invité à 8h30. Dans un instant, le journal de 7h. Mais tout de suite, la météo, 6h59. Pluie et douceur, Géraldine.
Oui, on va avoir le verre à moitié plein, hein, la douceur, parce que quand on regarde la couleur du ciel, c'est clairement le gris qui domine, avec des pluies faibles. Il y aura un peu de soleil, beaucoup de soleil, même vers les Alpes, et puis un soleil voilé vers le Jura, une partie de la Bourgogne, le midi toulousain. Les éclaircies qui vont arriver sur la Charente-Maritime jusqu'au Pays Basque pour cet après-midi. Mais ailleurs, ce sera compliqué de voir une éclaircie. Pour les températures, ça bouge pas beaucoup, et effectivement, c'est la douceur qui domine. On est 4-5 degrés au-dessus des normales, avec 10 degrés à Lille cet après-midi, 11 à Brest, 13 à Paris, Bourg, 14 à Lyon, 15 à Bordeaux, Marseille, Nice, jusqu'à 17 à Biarritz et Ajaccio. Attention, demain, on va avoir un coup de vent sur le nord-ouest avec beaucoup de pluie. Mais ce sera quand même bien moindre que Gorizia la semaine dernière.
La météo sur RMC avec Penny Lane. L'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Il est 7h. Excellent réveil à tous. Merci d'avoir choisi RMC pour vous lever.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Une loi d'urgence avant l'été, promesse de Sébastien Lecornu aux agriculteurs, toujours mobilisés ce matin à Toulouse. Des blocages sont en cours sur le périphérique. Nous serons sur place dans ce journal. Elle n'a pas eu le sentiment d'avoir commis un délit au premier jour de son procès en appel. Marine Le Pen se défend de ne rien avoir dissimulé dans l'affaire des assistants parlementaires. Et puis vous entendrez le témoignage RMC de l'une des victimes présumées d'un professeur d'une école catholique de Bordeaux accusé d'une trentaine de viols et d'agressions sexuelles.
24 heures après leur arrivée, les agriculteurs ont quitté Paris ce matin.
Une dernière nuit devant l'Assemblée nationale avant de lever le camp. Les tracteurs de la FNSEA sont en train de regagner leur ferme. Ils ont obtenu de la ministre de l'Agriculture des engagements au sujet de trésorerie. Le gouvernement mobilisé pour tenter d'éteindre la colère agricole. C'est le cas de Sébastien Lecornu qui a promis, Thomas Becker, une loi d'urgence avant l'été.
Oui, un projet de loi axé autour de trois priorités. L'accès à l'eau, la lutte contre les prédateurs, notamment les loups, et le renforcement des moyens de production. Sébastien Lecornu promet que ce projet de loi arrivera à l'Assemblée au mois de mars pour une adoption avant l'été. Pour tenter de faire redescendre la pression à court terme, Matignon fixe un horizon. Le salon de l'agriculture, ce sera fin février. Sébastien Lecornu veut que d'ici là, le sujet brûlant de l'accès à l'eau soit traité. Il a demandé au préfet de débloquer un maximum de projets hydrauliques en attente, ce qui fait déjà grincer des dents un député écologiste en première ligne, lui qui estime que le gouvernement cède à la pression des gros exploitants agricoles. La ministre Annie-Jeanne Varel répond sans détour, il y a urgence, sans être certaine que les mesures annoncées suffiront à éteindre la crise.
Et force est de constater que la crise couvre toujours. Ce matin, la 64 est coupée dans les deux sens de circulation à l'entrée de Toulouse. Secteur très chargé en ce moment avec des actions en cours sur place. Et en direct ce matin pour RMC, Jean-Wilfried Forquès, vous êtes sur l'un des points de blocage du périphérique toulousain.
Oui, des actions avec des véhicules à l'arrêt, des camions, des voitures, des automobilistes. Je peux vous assurer, Thibaut, totalement ulcérés, agacés, bloqués pour aller travailler ce matin. Nous sommes avec Maxime Rau, bonjour.
Bonjour.
De la coordination rurale ici, des actions qui se multiplient, plusieurs points de blocage, c'est ça depuis le milieu de la nuit. Hein.
C'est ça. C'est ça, c'est ça.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que vis-à-vis de la DNC, tout ça, on n'a toujours pas de réponse. Et les propos de Madame la Ministre ne nous vont pas. Et ces mesures, c'est des mesurettes qui ne servent à rien.
C'est-à-dire que les propositions, les nouvelles propositions données hier soir, ça ne vous convainc pas ?
Non, ça ne nous convient pas.
Ça veut dire que vous allez occuper Toulouse toute la journée ?
On va essayer.
Voilà, la mobilisation, Thibault, ici se poursuit sur le terrain. Point de blocage ici à Saint-Simon. Une partie du périphérique est bloquée ce matin. C'est très difficile pour regagner votre lieu de travail, certainement. Plusieurs agriculteurs ont été interpellés dans la nuit. Deux restent placés en garde à vue ce matin.
Et des complications aussi du côté de Bandol dans le Var, opération Escargot sur la 50 entre Marseille et Toulon. Des agriculteurs et surtout des éleveurs bovins qui seront absents du salon de l'agriculture pour la première fois en plus de 60 ans. Il n'y aura pas de vaches en février, porte de Versailles. Annonce de la direction hier et par solidarité, les éleveurs de race ovine et porcine ont également renoncé participer à l'événement. On en reparle dans le journal de 8h. Elle continue de clamer son innocence. Marine Le Pen s'est exprimée face au magistrat hier au premier jour de son procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. Et il semble, Guillaume Bier, que la triple candidate à l'élection présidentielle qui joue son avenir politique a changé sa ligne de défense.
Exactement. Fini sa virulence de première instance, sa façon de tout nier en bloc et de dénoncer un procès politique. Hier, Marine Le Pen s'est montrée humble en expliquant, je cite, que si un délit a été commis, et tout le monde semble dire qu'un délit a été commis, je veux bien l'entendre, nous n'avions aucun sentiment d'avoir commis le moindre délit lorsque nous avons embauché nos assistants. Et l'ancienne présidente du RN va même jusqu'à rejeter la faute sur le Parlement européen qui, selon elle, n'a pas joué ce rôle d'alerte tel qu'il aurait dû le jouer. Derrière Marine Le Pen, les principaux prévenus ont répété presque mot pour mot que non plus n'avaient jamais eu l'intention ou le sentiment de commettre un délit. Toute la question sera de savoir si, lors des débats, cette nouvelle ligne de défense uniforme résistera aux multiples indices du dossier.
Marine Le Pen, qui n'a de fait pas assisté à la reprise des débats portant sur le budget hier à l'Assemblée nationale, les députés appelés à un dernier effort par le gouvernement de Sébastien Lecornu, le Premier ministre, sous la menace de deux motions de censure RN et LFI débattues aujourd'hui contre l'accord avec les pays du Mercosur. Il est 7h05, un témoignage RMC maintenant, celui de Marianne, victime il y a 18 ans d'un instituteur d'une école privée de Saint-Genès-la-Salle à Bordeaux, mise en examen en 2023 pour viol, agression sexuelle et voyeurisme sur des enfants. Il lui est notamment reproché d'avoir mis en place des jeux du goût durant lesquels il imposait à ses élèves des fellations. Marianne en a été victime à l'âge de 8 ans et c'est bien après les faits qu'elle s'en est rendue compte. Elle s'est livrée au micro de Bérangère Bocquillon.
Il nous bandait les yeux, il nous faisait goûter différents aliments, il nous faisait pas goûter avec une cuillère. Donc là, j'avais directement senti que c'était quelque chose de pas normal, mais on me disait que c'était pas possible. À l'école, il était adoré, tellement aimé qu'il y a beaucoup de parents qui faisaient des pieds et des mains pour que leurs enfants soient dans sa classe. Moi, je l'ai appris, je travaillais chez Decathlon, et il y a la radio qui passe en boucle. Et quand j'ai appris ça, je me suis évanouie. J'en veux beaucoup à l'établissement auquel on faisait confiance. J'avais beaucoup de culpabilité de pas avoir assez parlé en 2008. Parce que j'aurais aimé que ça ne se reproduise pas. Mais en même temps, quand je vois que finalement beaucoup de personnes étaient au courant, je me dis que ma parole, elle aurait eu peut-être aucune valeur.
Et placé en détention provisoire, cet instituteur père de famille de 54 ans a reconnu une partie des faits. Il sera jugé devant la cour criminelle de Gironde. Il encourt jusqu'à 20 ans de réclusion. L'appel de Donald Trump aux Iraniens, encouragés à continuer leur combat contre le régime des Mollahs, à manifester, à prendre le contrôle des institutions, dit le président américain, qui promet que l'aide est en route. Il a réuni ses équipes hier soir à la Maison Blanche, propos dénoncés par Téhéran qui évoque des troubles orchestrés, prétexte à une intervention militaire américaine.
En Coupe de France, il ne reste plus que des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 après l'élimination du dernier petit poussé hier soir.
Les amateurs de Bayeux, club de 6e division, n'ont pas résisté bien longtemps face à l'OM. Les Marseillais s'imposent de 9-0 et font désormais de la compétition un objectif, Christophe Lécuyer.
Oui, l'OM a validé son billet pour les 8e de finale au terme d'un match dominé de bout en bout. Un état d'esprit qui doit permettre à cette équipe d'aller au terme de cette compétition sans pour autant négliger les autres, assure le défenseur marseillais Facundo Medina.
On est l'OM, il faut garder la mentalité de jouer toute la compétition à 100%. C'est un objectif principal pour nous, on dit la vérité. Même le championnat, c'est important. Et on est encore dans la Ligue des Champions, on va faire tout à 200% parce qu'ils méritent cette clé, ils méritent nous, notre équipe, notre groupe, et on ne va pas lâcher.
Le PSG éliminé de la Coupe de France. Cela peut en effet laisser le champ libre à l'OM, à qui il reste 3 matchs à gagner pour atteindre la finale. Mais pour l'entraîneur marseillais Roberto De Zerbi, gagner un trophée impose un état d'esprit, quel que soit l'adversaire.
C'est vrai que le PSG a été éliminé, mais le foot, ce n'est pas que les grosses affiches. Le défi est d'aborder toutes les équipes de la même manière. Ça passe par la préparation. Pour moi, il n'y a pas de trophée des champions ou de Coupe de France ou autre. Toutes les rencontres sont importantes.
Là, au prochain tour, l'Olympique de Marseille recevra Rennes dans 3 semaines au Vélodrome.
LPFC est tombeur du PSG. Lundi se déplacera à Lorient, Lens ira à 3, Lyon sera opposé à Laval. Et puis ne manquez pas ce soir sur RMC, soirée spéciale Coupe d'Afrique des Nations avec les demi-finales de la compétition Sénégal-Égypte à 18h, suivi de Maroc-Nigeria, ce sera à 21h.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h08 et ça y est, c'est officiel. C'est officiel, il y a désormais plus de morts que de naissances en France. Le chiffre a été dévoilé par l'INSEE. Il y a eu seulement 645 000 naissances en 2025 et c'est un chiffre au plus bas depuis la Deuxième Guerre mondiale. Bonjour Serge Guérin.
Bonjour.
Vous êtes sociologue spécialiste de la démographie. Et votre idée, c'est que pour inciter les parents à faire des enfants, eh bien, il faudrait peut-être leur donner plus de points de retraite. On va voir si ça peut vous convaincre. Tiens, vous qui nous appelez au 3216, venez donc témoigner. Est-ce que vous avez renoncé à des enfants que vous auriez souhaité mettre au monde, ou alors est-ce qu'au contraire vous êtes bien content de ne pas en avoir fait? Et si vous en avez fait, dites-nous pourquoi. On vous attend au 3216. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12, vous nous écoutez sur RMC, vous nous regardez à la télé, Canal 23, RMC Story. Ce chiffre qui a donc été dévoilé hier, parce que ça y est, c'est officiel, il y a désormais plus de morts que de naissances en France. Allô maman, bobo, comment on fait, parce qu'évidemment ça doit nous interroger aussi sur notre modèle social, sur l'équilibre, la pyramide des âges, les actifs d'un côté, les seniors de l'autre. Bonjour Serge Guérin, vous êtes sociologue spécialiste de la démographie. Votre parti pris ce matin, c'est que pour inciter les jeunes parents à faire des bébés, vous vous dites il faudrait majorer leur retraite. Est-ce que vous pensez franchement que ça peut convaincre les uns et les autres de faire des bébés?
Alors, ça suffira pas, mais devant cette... on est dans une situation, on pourrait dire, de déchéance de natalité. Alors, nous, face à la déchéance de natalité, on a inventé un truc génial. On est le seul pays au monde où on se dit, il suffit de travailler moins. On va bloquer la retraite à 60 ans, à 62 ans. C'est-à-dire qu'on fait l'inverse de tous les autres pays. Or, l'enjeu, c'est d'abord, de changer un peu le regard. C'est-à-dire que les gens âgés d'aujourd'hui, je sais pas, avoir 75 ans en 2026, c'est pas avoir 75 ans comme en 1956. 75 ans en 2026, c'est 45 ans en 1956. Donc, première chose, c'est tout simplement travailler plus longtemps au bazar de sort. Commençons par là. Ce que font tous les pays.
On travaille plus longtemps. On n'aura pas le choix.
Et à force de reculer, on va passer d'un coup d'un seul
à 75 ans.
Non, on va le faire progressivement. Et puis pas tout le monde.
Sur votre histoire de points de retraite. Moi, mère de famille, 4 enfants, je crois que j'ai gagné. Alors j'ai vérifié l'autre jour, je dois vous le dire, sur mon compte maretraite.fr.
Bravo.
En effet, j'ai gagné des trimestres pour chaque grossesse. Mais pour autant, franchement, d'abord, j'en avais pas la moindre idée quand j'ai mis mes enfants en route. Est-ce que vous pensez que ça fait partie des j'hésitais, j'y vais puisque je vais gagner des points de retraite?
Non, c'est pas ça. Globalement, normalement, on fait pas des enfants parce qu'il y a une petite prime en plus, parce qu'il y a un congé parental un petit peu plus.
En revanche, est-ce qu'on peut renoncer à faire des enfants parce que justement on aurait moins de sous?
Alors, ça peut arriver, évidemment, c'est une des raisons. La première raison, elle est simplement, il y a moins d'envie de faire des enfants. La réussite de sa vie, pendant longtemps, c'était couple et enfant. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Et pourquoi pas, c'est comme ça. Donc faut le prendre en compte. Il y a une réalité, c'est que les gens ont moins envie de faire d'enfants pour plein de raisons.
Pour
c'est anthropologique.
Il y a des raisons, d'abord, effectivement, vous le disiez, d'une forme de bien-être ou de recherche d'un bonheur autre. Il y a aussi la question économique du logement. C'est, semble-t-il, le point faible et la question qui bloque un certain nombre de parents d'oser mettre en route, pas forcément le premier enfant, mais au moins le deuxième.
Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je pense qu'il faut aider dès le premier enfant. Faut pas attendre le troisième. Faut attaquer tout de suite. Faut aider tout de suite. Parce qu'en effet, il peut y avoir un problème économique pour un certain nombre de personnes. Encore une fois, s'il y a pas les 15 mètres carrés officiels, c'est pas très grave non plus. On est aussi beaucoup dans des logiques hyper consommateurs et hyper individualistes aussi. Parce que ce qu'il y a derrière,
les enfants,
c'est pas seulement l'argent.
Ils peuvent partager des chambres. Ils l'ont fait pendant des années. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on l'ose peut-être moins.
Et vous avez raison. Dans le mot important, c'est partage. si on apprend aux enfants à être un peu plus dans la coopération, c'est pas mal non plus. Donc c'est pas que une question d'argent, même s'il y a aussi une question d'argent. C'est d'abord une question d'envie, c'est d'abord une question aussi de perspective. On est quand même dans une situation qui est pas hyper folichonne. Il y a plein de gens qui ont pas trop envie parce qu'ils se disent c'est le bazar, il y a la guerre, il y a l'écologie, il y a tout ça.
La confiance dans l'avenir. Antoine nous a appelé au 3216 du Haut-Rhin. Vous êtes à Lutterbach. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Antoine, 33 ans, deux enfants ?
Oui, c'est ça, depuis peu.
Depuis peu, quel âge a le deuxième ?
Elle a 4 semaines.
Elle a 4 semaines ! Félicitations, ça dort pas beaucoup alors. À cette heure-ci, à 7h16, vous avez encore les yeux qui piquent sûrement pour une nuit sans doute agitée. Qu'est-ce qui fait que vous avez osé faire un deuxième enfant, Antoine ?
Alors, l'envie de la parentalité, c'est ça. Après, c'est surtout que, enfin, mon point de vue, c'est que aujourd'hui, c'est pas des points de retraite, une échéance aussi lointaine. Pour moi, c'est un peu utopiste et c'est un peu risible. Je vois pas quelle motivation on va réellement avoir à l'instant T. Pour moi, aujourd'hui, ce qui fait défaut, et je le vois au niveau de mes amis et les personnes qui ont le même âge, c'est les niveaux de prestations qu'on a aujourd'hui. Quand on voit les difficultés aujourd'hui des gardes d'enfants, quand on voit toute la peine à l'accompagnement et permettre les parents de rester un peu plus longtemps à la maison, cet accompagnement-là qui est franchement difficile. On parlait de réarmement démographique. Aujourd'hui, je ne vois pas vraiment ce qui est en cours et ce qui nous permet vraiment d'y aller.
Ouais.
Mon exemple.
Ouais, allez-y, dites-moi justement comment vous faites, Antoine.
Mon exemple à nous, on a donc une deuxième petite fille. Ma femme est censée reprendre le travail en février après son congé maternité.
Ouais.
Alors autant dire que février, trouver une solution de garde, c'est juste impossible. Et on nous le fait bien savoir, c'est septembre ou rien. Ouais. Donc ça nécessite de rester à la maison. Et derrière, le soutien financier qu'on reçoit,
C'est ridicule. Elle fait quoi, votre femme?
450 euros. Elle est infirmière formatrice.
Ouais. Et donc effectivement, c'est très dur. Ça veut dire qu'elle va se retrouver soit à bricoler jusqu'en septembre, soit à devoir rester à la maison. Et financièrement, ça va être un petit sacrifice. Non, c'est sûr. Antoine, et ça, on l'entend bien d'ailleurs, de ce point de vue-là, quand vous disiez Serge Guérin, vous entendez Antoine qui dit, on nous a parlé de réarmement démographique, mais on nous a pas donné les armes. En vrai, on nous a pas vraiment donné les armes.
Je crois qu'il aurait mieux fait de se taire, mais ça, c'est un autre sujet.
Ouais, Emmanuel Macron, sur cette expression.
Voilà, rien que l'expression. Mais d'ailleurs, le cas est super passionnant, parce que sa compagne, la mère, elle est infirmière. On en a besoin, des infirmières. Vous voyez, on a aussi
donc
ce problème-là.
Donc on devrait l'aider, justement, à reprendre le boulot.
Absolument. Et d'un côté, on va arriver dans les années qui viennent, en 2031, on va commencer à arriver sur les générations où il n'y aura pas eu d'enfants. Donc il y aura de moins en moins de gens pour travailler, et c'est le moment où on va avoir un accroissement pendant 20 ans des plus âgés. Donc là encore, on a un besoin d'un côté d'être humain, d'intelligence. On les produit pas, puisque s'ils naissent pas, ils vont pas être intelligents.
Bon, vous voulez dire que les prix Nobel de demain, faut leur donner naissance maintenant, quoi.
Voilà. Alors, ils vont pas tous être prix Nobel, hein. Faut pas non plus raconter d'histoire. Voilà, mais n'empêche
pourquoi pas. Hein. Je place grand espoir dans mes enfants. Antoine, dans tous ces enfants à naître. Antoine, vous avez pas de regrets, là?
Ah non, pas du tout.
Voilà.
Voilà la bonne réponse. Mais oui. Bien sûr, ça ne se fera pas, pour du logement ou autre.
Oui, Antoine, je vous écoute.
Non, je pense que l'aspect financier, c'est un élément qui freine les gens, c'est une réalité, mais ce n'est pas une motivation.
Merci.
Quand on veut un enfant, c'est pour la beauté de la parentalité.
C'est très beau. Eh ben Antoine, merci en tout cas d'avoir témoigné, et merci à vous Serge Guérin, sociologue, vous avez publié « Et si les vieux aussi sauvaient la planète ?» C'est aux éditions Michalon. Anna Arendt, pour une fois, je vais quand même la citer ce matin sur RMC, elle disait « Chaque enfant qui naît est un espoir pour l'humanité ». Je le crois très profondément. 7h20 sur RMC. Et Arthur Chevalier est entré dans ce studio. Il est encore jeune, mais ça n'est plus un enfant. Arthur, il y a deux jours, l'ancien nationaliste corse Alain Orsini était tué au moment des funérailles de sa mère, alors qu'il se recueillait sur la tombe de sa mère. Le signe que la Corse n'en a pas fini avec la violence.
Oui, un assassinat qui n'est pas revendiqué, mais qui ressemble à un règlement de compte entre nationalistes corses, un mouvement qui n'a jamais hésité à s'en prendre à la République.
Vous nous le dites dans un instant, il y a aussi Arnaud Demange qui vient pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC, 7h20.
RMC, Apolline Matin.
7h21 sur RMC et RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité, comme chaque matin avec vous, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, Alain Orsini, figure du nationalisme corse, a été assassiné lundi. La Corse n'en a pas fini avec la violence.
Oui, Alain Orsini a été tué pendant les obsèques de sa mère, a priori d'une balle provenant d'un tir à longue distance. Une méthode jugée ignoble par Joe Peraldi, un ancien chef du FLNC, le FLNC, le Front de Libération Nationale de la Corse, auquel Orsini a longtemps appartenu avant de s'en éloigner dans les années 2000.
Il y avait adhéré dès ses débuts ?
Oui, Orsini rejoint le FLNC l'année de sa création en 1976, c'est-à-dire un an après la première action armée des autonomistes corses, hein, c'était en 1975, dans la ville d'Aléria. Des hommes avec des fusils occupent une cave viticole. Pourquoi ? Eh bien parce que cette cave appartenait à un pied noir, c'est-à-dire un rapatrié d'Algérie. Les autonomistes dénonçaient les terres données par le gouvernement français à ces pieds noirs plutôt qu'aux Corses. L'affaire se solde par un affrontement avec les gendarmes. Deux d'entre eux perdront la vie.
Donc le FLNC, c'est un mouvement indépendantiste.
Totalement, hein, sa doctrine est claire. L'autodétermination du peuple corse, y compris par la lutte armée. Et le principal mode du FLNC, c'est ce qu'on appelle les nuits bleues.
Les nuits bleues, qu'est-ce que c'est les nuits bleues ?
Alors les nuits bleues, ça désigne une série d'attentats perpétrés en une seule nuit avec des explosifs, hein, d'où le nom de nuit bleue en référence à la couleur que ça fait dans le ciel. Une des plus célèbres nuits bleues a eu lieu le 19 août 1982. 70 attentats sont commis à Bastia, Calvi, Ajaccio. Les cibles, ce sont des commerces, des appartements, des bureaux qui appartenaient à des continentaux, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas corses, avec un message très clair, dehors.
Le FLNC, c'est aussi des meurtres, et des meurtres revendiqués.
Eh oui, hein, dans la plupart des cas, il s'agit de règlements de comptes entre mafieux, mais ça touche aussi parfois directement l'État, hein. Le premier haut fonctionnaire assassiné par le FLNC, c'était Pierre-Jean Massimi, qui était secrétaire général de la Haute-Corse. Le 13 septembre 1983, il est tué au volant de sa voiture à Bastia. Désormais, le FLNC s'attaquait à la République.
Le FLNC qui est aussi capable d'agir hors de Corse.
Oui, personne n'était à l'abri. Hein. En octobre 1996, une bombe explose à la mairie de Bordeaux. Un symbole, puisque le maire de Bordeaux à l'époque, c'était Alain Juppé, qui était aussi Premier ministre. Alors, c'est un attentat sans victime, mais revendiqué par le FLNC. Là encore, la République était dans le viseur.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste du FLNC ?
Alors, officiellement, le FLNC a déposé les armes en 2014, hein, mais c'est un réseau tentaculaire qui n'est jamais vraiment mort en fait. En 2022, au moment où on parlait de l'autonomie de la Corse, le FLNC a même menacé de reprendre le combat. Donc oui, c'est encore une menace.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. C'est l'heure d'accueillir Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud. Arnaud, mon invité tout à l'heure sur RMC et BFM TV, ce sera le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo.
Oui, François Villeroy de Gallo. Villeroy de Gallo, c'est marrant, on dirait un nom de cheval en fait. Parce que il est gouverneur de la Banque de France, mais il court aussi dans la troisième à Auteuil. Alors que le 4, Lancelot du Kentucky déborde à la corde et laisse sur place le 8, Bégonia de Ménilmontant et le 9, Galouzo de Villepin, qui est pourtant le dernier vainqueur du prix Qatar de l'Arc de Triomphe. Et le 2, François Villeroy de Gallo fait une belle remontée et rejoint le 7, Dark Side of the Moon, et le 3, Matinale de la Tour du Pin. Ça sonnerait vachement bien.
Ah ouais,
quand même.
Excellent.
Ça sonnerait cool. Mais bon, là, il est banquier, ouais. François Villeroy de Gallo. Les chevaux et les bourses, c'est sa grande passion. Bon, allez, assez rigolé, le sujet est sérieux. On a toujours pas de budget 2026. Où sont les sous ? Si ça se trouve, ils sont à la Banque de France. Ça se trouve dès que notre ministre des Comptes Publics, Amélie de Montchalin, appelle François de Gallo et lui demande « On peut avoir des sous ?» C'est très tendu. En tout cas, il y en a qui sont contents. Ce sont nos voisins de BFM Business, le couple le plus glamour du PAF, Edwige Chevrillon et Emmanuel Le Chip. Emmanuel Chouminou, qu'est-ce que tu fais encore en caleçon ? François Villeroy de Gallo arrive dans moins d'une heure et tu n'es pas prêt. Viens m'aider à fixer ma gaine. Les régisseurs n'y arrivent pas. Qui s'occupe de mon épilation ici ? On peut m'envoyer l'assistant plateau ?
Mais madame, à la base, je suis un gesson, moi, je sais pas.
Écoutez, jeune homme, c'est un cas de force majeure. Emmanuel, où est-ce que tu en es ?
Je repasse mes chaussettes.
Oh, mais qu'il est nigo, hein. Tu ferais mieux de repasser ta chronique. Elle est où, ta chronique ? Regarde dans quel état elle est. On dirait du François Langlais de RTL. Tu veux finir comme lui, avec des audiences qui baissent ? Mais vu nos courbes hier, on aurait dit la croissance de la Chine au troisième trimestre. Alors fais honneur à la maison. Retravaille-moi ça. Ça commence comment ?
Dans un contexte monétaire globalisé, la Banque de France...
C'est nul ! Tu vas nous faire honte devant monsieur le gouverneur. Aïe !
que vous m'avez fait mal, vous.
Excusez-moi, je suis pas esthéticienne, j'ai jamais épilé d'économiste. Moi, je suis un gesson à la base.
Non, vous faites lui.
Allez, rendez-vous avec François Villeroy de Gallo à 8h30.
François
on a bien avancé
Villeroy de
Gallo
qui nous donnera des nouvelles de la France, effectivement. Ce sera à 8h30. Merci Arnaud Demange, qu'on retrouve à 8h20 en direct tout à l'heure. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Et à 7h40, mon invité, elle est à la fois agricultrice et députée européenne, Céline Imar. Les agriculteurs qui bloquent Toulouse. On y revient dès le début de ce journal. À tout de suite. Il est 7h29, il fait doux Géraldine?
Oui, très doux, on est 4 à 5 degrés au-dessus des normales. Ça change après quand même deux bonnes semaines de froid. On a vraiment basculé dans la douceur. Il fera 10 degrés à Lille, à Dijon cet après-midi, 11 à Brest, 13 à Paris, à La Rochelle, 14 à Lyon, Clermont-Ferrand, Toulouse, Nantes, Montpellier, 15 pour Bordeaux, Marseille, jusqu'à 17 à Biarritz et Ajaccio. En revanche, pour le soleil, il va falloir aller du côté des Alpes, vers le Jura, aussi une partie de la Bourgogne, jusqu'au midi toulousain, on aura un soleil voilé. Il y a des éclaircies qui vont arriver vers la Charente-Maritime, jusque sur le Pays Basque cet après-midi, mais sinon ce sera un temps bien gris avec des pluies faibles.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le pire est à craindre en Iran où la répression sévit et face à un bilan sûrement très sous-estimé, Donald Trump hausse le ton une nouvelle fois et organise la riposte américaine. La France des agriculteurs scindée en deux. À Paris, ils ont levé le camp, satisfaits de leur rencontre avec la ministre. Mais dans le sud, les blocages reprennent de plus belle ce matin. Et puis les parents appelés à la plus grande vigilance sur la plateforme de jeux en ligne Roblox, très prisé des moins de 13 ans et des pédocriminels, selon la haute commissaire à l'enfance.
Donald Trump veut voler au secours des Iraniens.
Qu'il appelle à tenir le coup et à maintenir la mobilisation qui a démarré il y a maintenant 2 semaines et demie dans le pays. Le président américain a d'ailleurs réuni cette nuit son équipe de sécurité avec notamment son ministre de la Défense pour étudier toutes les options à sa disposition. Il promet d'agir de manière très forte car même si le bilan est très difficile à établir, il pourrait être assez considérable selon ses mots. Et c'est ce que disent aussi les ONG, Inès Zegloul.
Un massacre à huis clos, décrit laconiquement Mahmoud Amiri Mogadam. Le président de l'ONG Iran Human Rights s'attelle à compter les morts. Plusieurs centaines de morts avérées, selon son organisation, du moins pour l'heure, lâche l'officiel.
Nous avons désormais des informations très claires selon lesquelles le nombre de morts pourrait en réalité s'élever à plusieurs milliers.
D'autres preuves, d'autres témoignages continuent de lui arriver au compte-gouttes. Les images des cadavres et les listes fournies par certaines morgues.
Des rapports nous proviennent de partout en Iran, Téhéran, au nord, près de la mer Caspienne, Ispahan, et encore nous n'avons pas beaucoup d'informations provenant des plus petites villes. Et dans la capitale, nous n'arrivons à joindre que 8 centres hospitaliers sur une centaine.
Des atrocités perpétrées dans un pays coupé du monde.
Nous avons aussi la preuve, et cela nous préoccupe beaucoup, que certains manifestants ont été blessés puis abattus d'une balle dans la tête ultérieurement. En somme, ce sont des exécutions sommaires.
Alors j'en appelle aux institutions internationales, conclut-il dans un soupir, pour que justice soit faite, tôt ou tard.
Deux salles, deux ambiances avec de nouvelles actions d'agriculteurs dans le sud de la France sur le périphérique toulousain où l'on constate déjà de grosses difficultés de circulation. L'autoroute A64 est bloquée dans les deux sens aux entrées et sorties de Toulouse. Sur l'A50, les tracteurs mènent une opération escargot entre Toulon et Marseille. Mais à Paris, le calme est revenu avec le départ très tôt ce matin des manifestants qui ont passé la nuit autour de l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas la loi d'urgence promise par le Premier ministre qui a apaisé leur colère, mais bien leur rendez-vous hier soir avec la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui leur a donné des garanties sur les sujets de trésorerie, selon Luc Smessard, le vice-président de la FNSEA.
On a obtenu hier soir des garanties pour que ces agriculteurs-là puissent être aidés, accompagnés, des agriculteurs qui sont dans le rouge, comme on dit, depuis maintenant avec deux mauvaises années. Et donc ça, c'est une des garanties qui ont suffi. On a surtout obtenu 3 points sur 4 qu'on avait demandé. Le quatrième, on l'a quasiment obtenu, si ce n'est qu'on n'a pas les engagements aussi clairs, puisque ce sera des dérogations. Je peux vous dire que ce matin, les gens sont un peu reposés et sont déterminés à combattre et à gagner ces paroles qui, des fois, ne se transforment pas en actes.
Propos recueillis par Solène Leroux pour RMC. Il est 7h33 et c'est un nom qui ne vous dit sûrement rien, mais qui parle très certainement à vos enfants. La plateforme de jeux vidéo en ligne Roblox est dans le viseur des autorités et notamment de la haute commissaire à l'enfance, Sarah El Haïry, qui appelle les parents à la plus grande vigilance, Rachel Sadodine, face à ce qu'elle décrit comme un repère de pédocriminels.
Interface ludique, colorée. En arrivant sur la plateforme, on découvre une multitude de vignettes animées, des jeux vidéo mettant en scène tantôt des dragons, voitures, poupées et autres loups-garous. Roblox, c'est 150 millions d'utilisateurs chaque jour, dont près de 40% ont moins de 13 ans. De jeunes joueurs exposés aux pédocriminels embusqués sur la plateforme, selon Inès Legendre, juriste à l'association e-enfance.
Des prises de contact qui vont être faites via le jeu, donc via la plateforme Roblox, et qui, in fine, va basculer vers des messageries externes avec des sollicitations sexuelles, tout particulièrement chez les mineurs.
Pour lutter contre ce risque, e-enfance demande le renforcement du système de vérification de l'âge au moment de l'inscription sur la plateforme.
Roblox, c'est exactement la même particularité que tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre n'importe quel âge au-delà de 13 ans, et en fait, on va pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités de Roblox.
L'association de protection de l'enfance n'est pas pour une interdiction pure et simple de la plateforme aux mineurs. Elle encourage le dialogue entre parents et enfants pour s'assurer d'une utilisation sécurisée de Roblox.
7h35, on en sait plus ce matin sur la fraude sociale.
Fraude très souvent brandie dans les débats politiques. On parle de 14 milliards d'euros de manque à gagner l'an dernier selon le rapport publié hier par le Haut Conseil du financement de la protection sociale. Mais contrairement aux idées reçues, les bénéficiaires de ces prestations sociales ne représentent qu'un tiers des fraudeurs. Pour plus de la moitié, il s'agit en réalité de patrons dans l'hôtellerie-restauration, les transports ou encore le BTP, Anna Jojard.
Il arrive parfois à Lionel, artisan plombier, de ne pas déclarer certains de ses travaux.
C'est jamais des très grosses sommes, quoi. C'est 20 euros, 30 euros.
Du travail non déclaré qui représente moins de 5% des revenus de l'artisan qui explique faire ça pour arranger les clients.
Si je dois faire une facture normale, je dois compter mon déplacement, je dois compter les pièces, mon temps de travail et tout. Puis de suite, ça fait une somme importante pour mon petit robinet qui coule. Je fais un prix, quoi. Voilà. Et du coup, je paye pas d'impôts dessus, mais je fais pas fortune avec ça.
Ce n'est pas le cas de tout le monde. Sur les 14 milliards d'euros qui échappent à la sécurité sociale, seulement 680 millions ont pu être recouvrés. Un écart qui s'explique par la difficulté parfois d'identifier les fraudeurs, selon Dominique Libaud, président du Haut Conseil du financement de la protection sociale.
Nous avons une organisation du travail en France de plus en plus avec des sous-traitants et ce qu'on appelle des entreprises éphémères. C'est elles qui concentrent l'essentiel du travail dissimulé et le jour où il y a un contrôle, elles disparaissent.
Selon lui, le taux de fraude à la sécurité sociale reste toutefois constant par rapport à l'année dernière.
L'Olympique de Marseille, qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France après avoir battu le petit poussé Bayeux 9-0 hier soir. Et puis ce soir, c'est le début des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations avec à 18h Égypte-Sénégal et Maroc-Nigéria à 21h. Les deux matchs à vivre évidemment sur RMC avec une soirée spéciale aujourd'hui de 20h à minuit.
Et puis le quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 5, Alpa. L'outsider, c'est le 9 à l'œil Sius.
C'était le journal d'Élise Dangean. Il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Les tracteurs ont quitté le centre de Paris à l'aube. Ça coince désormais du côté de Toulouse. Une colère des agriculteurs très profonde. C'est ce que vous nous direz dans un instant, Céline Imar. Céline Imar, vous êtes députée européenne, vice-présidente des Républicains et agricultrice vous-même, agricultrice dans le Tarn. Est-ce que les promesses d'une nouvelle loi d'urgence faite par Sébastien Lecornu à la fin de la journée hier peuvent faire rentrer les troupes dans les fermes? Votre réponse dans un instant. Et vous tous qui nous écoutez, appelez-nous au 3216 ou laissez-nous des messages sur le WhatsApp de l'émission 0612 424 424. Si vous êtes dans le coin de Toulouse, dites-nous si ça coince. Et si vous êtes agriculteur, dites-nous si ça vous apaise les promesses du gouvernement. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41, très belle journée à l'écoute d'RMC. Après Paris, les agriculteurs bloquent ce matin Toulouse et leur colère ne retombe pas. Bonjour Céline Imar.
Bonjour.
Vous êtes vous-même agricultrice. Vous êtes agricultrice et députée européenne, vice-présidente des Républicains. Vous avez une exploitation d'agriculture céréalière dans le Tarn. Au fond, il y a eu la dermatose. Il y a eu ensuite la question du Mercosur. Mais la colère ne retombe pas.
parce qu'elle est beaucoup plus profonde, parce que les problèmes sont beaucoup plus profonds, Céline Imar.
Parce qu'ils sont beaucoup plus profonds, ils sont connus, c'est le problème du revenu, c'est le problème des normes, c'est le problème de la considération. On ne peut pas traiter une crise économique, sociale, mais aussi identitaire, encore au-delà du problème du revenu, comme un problème de circulation, si vous voulez. Aujourd'hui, le vrai problème, et c'est ça que les agriculteurs ressentent, c'est que Emmanuel Macron a réussi deux choses pendant son mandat. La première chose, c'est la dissolution ratée de l'Assemblée nationale, qui a aussi causé des problèmes aux agriculteurs avec l'instabilité derrière. Puis la deuxième chose qu'il aura magnifiquement réussi, c'est la dissolution de la France dans l'Union européenne. Puisque là, on voit bien que l'Europe n'a plus aucun moyen d'écouter la France. La France n'est plus crédible, et ça, les agriculteurs le voient. Le fait que l'Europe puisse s'asseoir sur la position de la France, aujourd'hui, ils le perçoivent aussi comme une humiliation.
Et en même temps, il y a quand même quelque chose d'assez contradictoire, Céline Imar, c'est que vous-même, vous êtes députée européenne, vous appartenez au groupe de la droite européenne dans lequel siège... Enfin, d'où vient Ursula von der Leyen, qui est la première batailleuse, j'allais dire, du Mercosur.
Tout à fait.
C'est quand même assez contradictoire.
Et non, c'est pas contradictoire. Aujourd'hui, les fractures sur le sujet, notamment du Mercosur, se font par pays. C'est-à-dire que ce soit les députés ou les États membres, ils vont défendre leurs intérêts nationaux. C'est ça le vrai sujet. Ursula von der Leyen, elle est allemande. Tous les Allemands, tous les Espagnols, beaucoup de pays du Nord aussi, ou qu'ils soient placés à la Commission, vont défendre cet accord parce qu'il est vital pour eux. Aujourd'hui, les Allemands ont besoin d'amener une bouffée d'oxygène. Et c'est ça le véritable sujet. C'est qu'aujourd'hui, le coq français, dans ce contexte-là, est devenu un poulet malheureusement sous hormones. Et on est passé de la politique de la chaise vide à la politique de la chaise inutile.
Céline Imar, vous avez dit, dans la liste des problèmes auxquels sont confrontés les agriculteurs, vous avez parlé de la question des revenus d'abord, vous avez parlé ensuite de la question des normes. Est-ce que la France, et là, indépendamment de la question de l'Europe, il y a un petit côté un peu trop facile à dire c'est la faute de Bruxelles, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu, et là, j'ai envie de dire tout gouvernement confondu, qu'ils aient été de droite ou de gauche, une sorte d'exagération des normes, ou alors, quitte à faire des normes, il fallait les appliquer à tout le monde?
Chaque administration aussi a rajouté sa couche. C'est bien là que le bât blesse. C'est que j'en parlais hier aux agriculteurs sur l'application de la directive nitrate, sur l'application des normes sur l'eau, sur l'application des normes sur les phytosanitaires. Pourquoi les autres agriculteurs ne sont pas dans la rue? Parce qu'en fait, la France a le chic de rajouter des surtranspositions. Là aussi, les macronistes, avec le pacte vert, notamment, qu'ils ont promu au dernier mandat avec Pascal Canfin, et aujourd'hui qui viennent dire « vite, il faut faire des lois d'urgence de simplification », c'est un peu comme des pyromanes qui feraient la promotion de l'assurance incendie. Moi, ça me dérange. Mais bien sûr aussi que tous les gouvernements successifs et les administrations ont une responsabilité dans cette crise, c'est certain. Mais après, il ne faut pas chercher toujours des coupables ou des responsables. Il faut en chercher, il faut les trouver, mais surtout, il faut que ça avance.
Il faut lever ces normes ?
Il faut absolument lever ces normes, il faut revenir à de la simplification réelle. Aujourd'hui, les promesses d'une loi de simplification...
Donc la loi d'urgence promise hier...
Elle ne sera pas votée avant l'été. Regardez, aujourd'hui, on attend encore les décrets d'application de la loi Duplomb, qui était cet été.
La loi Duplomb a été votée en juin, oui. Elle n'est toujours pas appliquée, aucun des décrets n'ont été publiés.
Alors... Il faut à peu près compter 6 mois, en effet, pour que les décrets d'application se publient. Ça nous ramène, en fait, à la campagne des présidentielles pour une loi votée avant l'été, avec le devoir de réserve lié à l'élection.
Donc pour vous, c'est pas ça la réponse. La loi d'hier n'est pas une réponse. La loi promise hier n'est pas une réponse.
Ce n'est pas une réponse qui va donner des effets et qui va répondre à l'urgence. Aujourd'hui, les agriculteurs sont dans l'urgence absolue, que ce soit les vitesses.
Qu'est-ce qu'on peut faire en urgence?
Lever les normes. Aujourd'hui, sur les nitrates, typiquement.
Ça, on peut le faire par règlement, on peut le décider.
Par règlement, par ordonnance. Le vrai sujet, c'est qu'il n'y a pas la volonté politique derrière ce sujet-là.
Je voudrais qu'on donne la parole à Quentin qui nous appelle de Quimper. Bonjour Quentin, vous êtes fonctionnaire territorial et vous vouliez nous alerter parce que depuis ce matin, on parle des blocages qui ont eu lieu jusqu'à tôt ce matin au centre de Paris avec des tracteurs devant l'Assemblée nationale. On parle de ce qui se passe du côté de Toulouse où ça bloque autour de Toulouse, mais vous vouliez nous alerter sur le fait que ça a bloqué aussi en Bretagne.
Oui, exactement. Et bonjour Apolline déjà.
bonjour.
Ouais, depuis hier, ils ont bloqué entre Quimper et Quimperlé, toute la
okay.
loi, en fait, que okay. tout le monde utilise sur le territoire breton.
Mmh.
Et du coup, ça a créé d'énormes bouchons. Moi, je suis resté 1h30 bloqué hier soir sur un trajet d'une demi-heure.
D'accord.
Mais du coup, ouais, c'est très, très impressionnant. Et voilà. Après, on n'a pas d'infos sur où est-ce qu'ils sont exactement, qu'est-ce qu'ils ont bloqué. Ah, visiblement, en fait, ils ont fermé la 4 voies de manière sécurisée. En fait, c'est pas les agriculteurs qui nous font sortir de la 4 voies, c'est... c'est des plots orange et du coup on voit même pas les agriculteurs.
Vous les voyez même pas, mais ils ont bloqué, semble-t-il, sur environ 20 kilomètres. Donc hier, RN 165, merci de nous alerter, parce qu'effectivement il y a ce genre de mouvement aussi à d'autres endroits de France. Vous avez mis une heure et demie là où vous mettiez d'habitude une demi-heure, est-ce que vous les soutenez malgré tout?
Oui, parce que ce sont, ils ont, franchement, leurs revendications sont, paraissent plutôt légitimes. Et en fait, ils n'ont pas de pouvoir de nuisance, contrairement aux contrôleurs aériens, aux contrôleurs SNCF. Ils n'ont pas de pouvoir de nuisance, donc malheureusement, ils ont que ça comme solution.
Ouais, s'ils font grève tout seuls dans leur exploitation, effectivement, personne n'en tiendra compte. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir alerté, Quentin. Et comme Quentin, vous n'hésitez pas au 32-16 à nous le dire. Ce matin, le journal L'Opinion révèle que la Banque de France a fait une étude globale sur l'agriculture et le secteur agroalimentaire. Et Céline Imard, ils le disent, c'est un désastre. Ils disent, c'est un désastre absolu. La balance commerciale, on le sait, a basculé. Mais ils disent, c'est un désastre beaucoup plus profond. Les normes, bien sûr, mais aussi si la fiscalité, disent-ils, est beaucoup plus lourde sur nos agriculteurs que sur chacun de nos voisins. En fait, le problème, c'est que nous ne jouons pas avec les mêmes armes que les Allemands, les Polonais, les Italiens, les Espagnols.
Bien sûr, qui nous renvoient d'ailleurs cet état de fait en effet miroir. Quand on leur dit voter contre le Mercosur, ils nous disent le Mercosur est toujours pas entré en vigueur et vos agriculteurs sont déjà très mal. Et on sait quelles sont les causes. Problème de surfiscalité, problème de charges sociales, on a besoin d'un choc de compétitivité, on a besoin de redonner une vision aux agriculteurs en leur disant aujourd'hui la vision de la décroissance qu'on a eue qui a été promue par toute une sorte de bonne conscience d'une sphère écologiste militante à la fois dans l'administration et dans sur le terrain. Aujourd'hui, elle a mené à un empilement de normes qui fait qu'on ne peut plus vivre.
Céline Imard, il y aura tout à l'heure des motions de censure qui seront discutées à l'Assemblée nationale, l'une d'elles par le RN, l'autre par LFI. Initialement, Bruno Retailleau, le patron des Républicains, le parti auquel vous appartenez, avait menacé de censurer le gouvernement si le Mercosur était adopté. Est-ce que vraiment c'était un motif de censure?
Si, et Bruno Retailleau a eu raison, si Emmanuel Macron votait pour. Parce qu'Emmanuel Macron n'a jamais été clair entre ce qu'il disait aux agriculteurs français et ce qu'il disait à ses homologues européens.
Entre-temps, Emmanuel Macron a donc annoncé que la France votait
évidemment,
non.
Il avait
ça n'a rien changé, mais enfin, il a voté non.
Voilà, et évidemment. Donc, il avait le couteau sous la gorge, il a voté non. Mais on n'a pas, Bruno Retailleau n'a pas annoncé la motion de censure si la France perdait le Mercosur. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que LFI, par exemple, dépose une motion de censure et ce sont les premiers à venir cajoler les agriculteurs sur les manifestations, alors qu'ils ont été les premiers à scier la branche sur laquelle l'agriculture est
Ça a l'air même de vous faire rire tellement vous trouvez ça énorme.
Et maintenant, ils viennent cajoler les agriculteurs parce que les agriculteurs ont peur du vertige alors que c'est eux qui ont coupé la branche. Mais parce que, regardez la loi Pompili 2016, regardez toutes les lois qu'ils ont réussi à faire passer, à promouvoir le pacte vert qu'ils ont porté en Europe, c'est quoi? C'est de l'écologie punitive, c'est de la surtransposition sur tous les
accès aux facteurs de production. Le problème, c'est les écolos, c'est les ONG, à vos yeux, c'est
ça le problème? C'est cette sphère, en fait, qui est devenue majoritaire dans l'opinion, qui fait de l'agribashing à tout va, qui casse dans l'esprit des Français le fait que l'agriculture que nous produisons est la meilleure du monde, que nous respectons déjà les règles environnementales les meilleures du monde. Et en fait, ces gens-là, vous savez, ces ONG, moi je les vois chez moi à côté de la 69, ce sont les mêmes qui se mobilisent à Sainte-Soline ou contre des projets agricoles. Vous savez, quand on se balade comme ça sous couvert de protection de la planète, mais qu'on brandit un drapeau palestinien et qu'on a le t-shirt arc-en-ciel des minorités LGBT en même temps, parce qu'on applique la convergence des luttes, et on se mobilise en permanence contre l'extension d'une porcherie, contre l'extension d'une poulailler, contre la création d'une réserve d'eau. Mais voyez, c'est ça aujourd'hui dont les agriculteurs...
Il y a une forme d'hypocrisie à vos yeux.
Bien sûr, complètement. Et ça instaure une vraie souffrance chez les agriculteurs.
Merci Céline Imard d'avoir répondu à nos questions ce matin. Députée européenne, vice-présidente des Républicains, agricultrice dans le Tarn. Il est 7h50 sur RMC. Dans un instant, la voix de droite avec Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Louis, de la viande 100% halal dans les fast-food et notamment chez KFC à partir d'aujourd'hui, pour vous c'est inquiétant?
Oui, le halal de KFC n'est qu'un symptôme. Le vrai sujet, Apolline, c'est l'islamisation grandissante de nos sociétés.
La voix de droite, dans un instant, sur RMC. Il est 7h51, restez bien avec nous.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite sur RMC. Mais d'abord, le bonus, Martin. Le groupe BTS, bientôt de retour en France.
Et oui, les phénomènes de la kebab seront sur la scène du Stade de France. Rien que ça, cet été, ils l'ont confirmé hier. Deux concerts prévus les 17 et 18 juillet prochains. Notez bien les dates. Notez aussi celle du 24 janvier. Dans 10 jours, c'est ce matin-là que les places seront mises en vente. Ça risque de partir vite. Ça fait 6 ans. Depuis juin 2019 que les BTS n'ont pas été en concert en France. En même temps, ils ont dû faire une pause de 3 ans, les 7 membres du groupe. Le temps pour eux de faire leur service militaire, il est obligatoire dans leur pays. En Corée du Sud, ils ont été démobilisés en tout début d'année. Ils ont donc annoncé leur retour avec une tournée mondiale qui passera dans 34 pays et qui passera donc par le Stade de France. Ils vont aussi sortir un album, ça c'est la première chose qui va arriver, 14 titres inédits dont la sortie pour cet album, sortie prévue le 20 mars prochain.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
7h53 et comme tous les mercredis, c'est la voix de droite sur RMC. Bonjour Louis Sarkozy.
Bonjour Apolline.
Louis, l'enseigne KFC va proposer une offre 100% halal dans 24 de ses fast-food. KFC explique vouloir répondre à une demande croissante d'une partie de ses consommateurs. Ça vous inquiète ?
En soi, qu'une entreprise décide d'adapter son offre à la réalité de son marché, très bien. Le libéral économique que je suis ne souhaite certainement pas que l'État vienne régenter le comportement des entreprises privées. Mais là n'est pas le vrai sujet. Apolline, KFC n'est qu'un symptôme. Le sujet, le vrai, c'est l'islamisation grandissante de nos sociétés.
Qu'est-ce que vous voulez dire par islamisation ?
C'est que la France, Apolline, commence à ressembler de plus en plus au Liban, une société fragmentée, divisée, livrée au communautarisme et à l'obscurantisme religieux. L'islam a sa place en France, soyons très clairs, mais à une condition, qu'il se plie aux règles de la République, qu'il se soumette à nos lois, à notre histoire, à notre culture, et non l'inverse. C'est ce qu'on l'a toujours exigé, c'est ce qu'a fait le judaïsme d'ailleurs, qui prête chaque jour serment à la République, et c'est même ce qu'a dû faire le christianisme, pourtant en partie né sur notre continent.
Et pour vous, l'islam rechigne à le faire ?
Oui, une partie de la communauté musulmane de France a des problèmes sociologiques propres à cette foi. Ils sont souvent plus réfractaires que la moyenne à la liberté de conscience, à la laïcité, à l'égalité homme-femme. D'après un sondage IFOP de 2019, par exemple, 63 des musulmans de France disent que l'homosexualité est une maladie ou une perversion, contre seulement 14% des catholiques. 56% pensent une femme doit absolument obéir à son mari. Et d'après une étude Fondapol, un musulman français sur deux pense que les juifs ont trop de pouvoir dans l'économie, la politique ou les médias. Ils sont trois fois plus enclins à déclarer leur antipathie envers les juifs. L'affaire de KFC montre ceci, que nous avons affaire à des communautés de plus en plus illibérales.
Vous pensez que le combat est idéologique ?
Exactement, c'est un choc culturel et idéologique, pas du tout ethnique. Il faut d'ailleurs préserver, valoriser et faire triompher tous les Boualem Sansal, tous les Kamel Daoud du monde. Ces intellectuels qui mènent de l'intérieur le combat pour la liberté de conscience, la raison, pour l'émancipation, pour l'universalisme. À l'inverse, les facilitateurs de l'entrisme islamiste, tels que Louis Boyard par exemple, pourtant blanc comme un cierge, sont des ennemis parfaitement existentiels pour nous.
KFC, c'est le symptôme pour vous d'un combat, vous diriez une guerre idéologique ?
Absolument. Les vagues d'immigrants qui sont arrivés en France l'ont fait pour chercher une vie meilleure, plus de richesse, plus de liberté, plus d'ouverture. Ce qu'ils ne trouvaient pas chez eux, à eux aussi de veiller à ce que la France ne se transforme pas en ces pays qu'ils ont précisément fui. Le halal n'est qu'un symptôme de quelque chose de bien plus grave, la disparition progressive de ce qu'a fait la France, sa dilution, sa transformation en quelque chose de bien pire. Et ça, c'est à chaque Français de l'empêcher.
Merci Louis Sarkozy. Louis Sarkozy, la voix de droite ce matin sur RMC, comme tous les lundis et tous les mercredis. Et demain, jeudi, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflo, qui sera à votre place. Rendez-vous à 7h50. Dans un instant, la météo et le journal de 8h. À la une du journal, aucun bovin, donc cette année toujours au Salon de l'Agriculture. L'annonce a été confirmée hier. Le salon va devoir complètement se réorganiser. On y revient. La météo, beaucoup de douceur, mais aussi beaucoup de gris. Et puis juste après le journal, ce sera l'économie avec vous, Emmanuel. Emmanuel Le Chypre, 1 milliard de plus que l'an dernier. La fraude sociale, encore en hausse cette année.
Oui, et je vous explique qui sont les fraudeurs, pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette fraude.
Restez bien avec nous, il est 7h57, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.